t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix Radio Capi qui vous livre ses derniers numéros de parole aux auditeurs pour cette semaine. Le gouvernement décide d'envoyer à partir d'octobre prochain 500 étudiants boursiers dans les meilleures universités d'Amérique, d'Europe et d'Asie aux frais du Trésor public. L'annonce a été faite mercredi dernier à Kinshasa par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Steven Bikai a affirmé au cours d'une conférence de presse que ce programme vise à faire face au déficit de l'élite universitaire dans les domaines des sciences et technologies notamment. D'après lui, les bénéficiaires de ces bourses devront travailler pendant 5 ans pour l'État congolais avant que leur diplôme ne leur soit octroyé. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 09 97 06 49 69. Les deux numéros pour intervenir en direct. Jean-Claude Chala réalise ce magazine et est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba. Gilles Longuembo est à la coordination et Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour en parler, nous avons en ligne Monsieur Steven Bikai, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a milité au sein du gouvernement de prendre cette décision d'envoyer ces 500 étudiants et étudiants à l'étranger?
D'abord, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'avais fait une ronde pour visiter toutes les universités supérieures de la République. J'ai fait certains constats, notamment j'ai vu que dans des facultés des sciences humaines, il y a pléthore d'étudiants qui manquent même de place, alors que dans des filières scientifiques et technologiques, il n'y a pas assez d'étudiants, il y en a 3, 4, 5, alors que le pays, pour se développer, n'est-ce pas, il doit consommer les mathématiques et avoir des gens bien formés dans le domaine technologique et scientifique. Alors, j'ai constaté qu'il fallait pousser les étudiants à faire ces filières. C'est comme ça que mon ministère a pu instaurer ce que j'appelais bourse d'excellence et société nationale qui pousse les enfants qui réussissent, surtout ceux qui viennent des milieux pauvres, qui réussissent à un test de pouvoir entrer à l'université sans payer jusqu'à la licence étudier gratuitement. Alors, j'ai constaté que même s'il y a des élèves, nous avons 3000 professeurs dans notre pays sur environ 400 000 étudiants, ce qui est trop peu. Et dans les 3000 professeurs, 95% ce sont les gens qui ont des doctorats dans le domaine des sciences sociales. Seulement 5% ont des doctorats dans le domaine scientifique et technologique. Alors je me suis dit, bon, il fallait remonter la pente. Comme ça, j'ai conçu au nom du ministère un projet que j'ai défendu au gouvernement, consistant à pouvoir envoyer chaque année au moins 500, sinon 1000, si les moyens le permettent, étudiants congolais, surtout les scientifiques, comme assistants, chefs de travaux, dans les universités les plus renommées à l'échelle internationale, pour pouvoir nous importer au pays la technologie, d'abord pouvoir augmenter le nombre de professeurs dans tous les domaines, mais essentiellement dans le domaine scientifique et technologique. Donc, j'obtiens du gouvernement le financement de ces bourses pour pouvoir permettre à ce que cette année, on envoie au moins 500 personnes aux frais de l'État pour suivre leurs études. Je ferai des voyages dans plusieurs pays les plus avancés pour négocier les taux préférentiels et pour voir les universités où on va placer les gens qu'on va envoyer de ce côté-là. Voilà ce qui a motivé ma démarche, parce que même le Japon, la Chine, se sont développés grâce à cette politique. Ils étaient aussi pauvres que nous. Ils ont pu envoyer leurs enfants dans des pays les plus industrialisés, importer la technologie. Aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, parmi les grandes puissances ce plan économique, même scientifique. Voilà ce qui a poussé à ce que je puisse proposer ce projet qui a été adopté à 100% par le gouvernement de la République.
Mais quelle est la différence avec le projet de la Bourse d'excellence et des solidarités nationales que vous aviez lancé l'année passée? Est-ce que c'est la même chose ou bien ce sont deux bourses différentes?
Non, c'est complémentaire. La Bourse d'excellence et solidarité nationale, c'était pour soutenir les détenteurs de diplômes d'État et ceux qui n'ont pas le moyen de poursuivre leurs études à l'université, c'est-à-dire qui viennent essentiellement des familles pauvres, qui passent un concours et qui poursuivent leurs études au pays gratuitement, du premier graduat jusqu'en deuxième licence. Alors, chaque année, on va le faire, mais bientôt, il y aura encore une deuxième promotion des années qu'on va faire à travers la République. Maintenant, cette initiative actuelle est complémentaire à la première, c'est-à-dire, en dépit du fait que je rends des enfants vers les options qui sont orphelines, alors je fais en sorte qu'il y ait aussi autant de professeurs qui vont être formés pour pouvoir les encadrer. Parce que le besoin qu'on a en France, c'est environ 26 000 professeurs. Et on n'a que 3 000. Voilà pourquoi il fallait aider les étudiants les plus doués de pouvoir poursuivre leurs études afin de devenir aussi professeurs puis assumer la relève sur le plan académique d'autres pays. J'ai dit que toutes les filières sont concernées, y compris les sciences sociales, mais ils auront un pourcentage. Mais je vais davantage privilégier ceux qui font des études qui amènent au développement en matière physique, comme physique, chimie, mathématiques, polytechnique, mécanique, électricité, ainsi de suite. Voilà un peu l'essence.
Alors, rapidement, avant d'écouter les auditeurs qui sont nombreux, hein, qui voudraient aussi placer un mot par rapport à ces débats, quels seront alors les critères de sélection? 500 étudiants, 500 boursiers sur l'ensemble de ceux du pays, comment on pourra procéder à leur recrutement?
Donc, c'est une question de méritocratie. D'abord, en ce qui concerne ce qu'on va envoyer pour le premier cycle, nous avons, quand on va faire passer le test cette année pour la bourse de solidarité au niveau national, les meilleurs. J'insiste, nous n'allons pas tenir compte du diplôme d'État avec leur pourcentage. L'issue va organiser un test que vous ayez 30% de son d'État ou 80%. Ce qui va compter, c'est le test que nous on va faire à part des mesures spécialisées. Alors, ceux qui seront les meilleurs, n'est-ce pas, parmi ceux qui vont faire le test de bourse de solidarité nationale, ceux-là, on va les prendre pour le premier cycle. Et maintenant, pour les chefs de travaux, les assistants qui ont déjà des sujets de recherche dans les domaines scientifiques, technologiques et d'innovation, ils sont d'office concernés aussi, ils vont voir, n'est-ce pas, la commission. Et les autres aussi, on va voir. Donc, s'il y a beaucoup de candidats, il y aura aussi des critères éliminatoires. Notamment, on a discuté avec combien. Est-ce qu'on peut passer un petit test sur le plan, par exemple, de mathématiques, sur le ce qu'on a appris à l'université, sur la rédaction, sur le français, ainsi de suite. Alors, pour qu'on puisse avoir le meilleur. Et j'insiste qu'on va tout faire pour éviter la politisation. Vérifiez bien, ceux que j'ai revenus cette année, ils sont environ 200. Je ne les connais même pas. Ce sont des gens qui ont passé le test et qui ont réussi, qui peuvent le témoigner. Et que j'ai pu placer dans différentes universités supérieures de notre pays, surtout de la ville de Kinshasa.
Alors, on va écouter Franck qui nous appelle de Vienne. Monsieur le ministre, on vous garde pour suivre ce que les auditeurs en pensent. Peut-être qu'ils ont un complément ou une préoccupation. Nous écoutons Franck. Merci d'être avec nous. Vous êtes très très intéressé à ces questions qui touchent à l'éducation. Franck, bonjour.
Bonjour mon ami Pierrot, bonjour respectueuses salutations à son excellence monsieur le ministre, puis bonjour à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je viens de suivre avec intérêt et respect notre ministre des tutelles. Je vais tenter d'argumenter par rapport à trois points. Au premier, nous sommes tous des citoyens congolais. Nous suivons ce qui se passe chez nous et quand nous apprenons qu'il y a de telles initiatives que l'État congolais s'engage à octroyer des bourses à ses propres citoyens pour aller étudier, pour aller se former, c'est vraiment une initiative qui doit nous encourager, que nous saluons et nous demanderons encore à son excellence qu'on fasse encore plus que ça. Parce que on n'a pas beaucoup de rappels à lui faire. Chaque pays qui se respecte, chaque pays qui veut vraiment garder sa souveraineté, doit aussi travailler pour préparer des cadres pour son futur, pour son avenir. Puis, au deuxième point, c'est par rapport à ce que le ministre dit là. Donc, c'est bien d'octroyer ces bourses. Mais je crois que son Excellence, Monsieur le Ministre, les problèmes que nous allons peut-être dégager aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait de penser à octroyer des bourses, mais c'est aussi de suivre cela. Parce que depuis la Deuxième République, il y a des citoyens congolais à qui on a octroyé des bourses, qui sont sortis pour aller étudier. Il y en a qui nous racontent aujourd'hui, parce que nous qui sommes à l'étranger, on est parfois informés par rapport à certains détails qui se passent sur les réalités du Congo, alors que parfois ceux qui sont sur place ne le maîtrisent pas convenablement. Donc moi personnellement, je connais des amis qui sont arrivés pour étudier avec des bourses du pays, mais qui n'ont pas été accompagnés, soit ils n'ont reçu que 2 mois, après ça ne venait plus. Il y en a à qui on avait dit non, on te paye d'abord le billet, tu arrives là, l'argent va suivre. Il est arrivé une année après, rien n'arrivait, et il y en a qui sont arrivés ici seulement selon des combines. Donc, il va remplir des formulaires, on lui dit, allez-y là-bas, on va faire ceci. Après, on l'appelle pour lui dire que non, tu es déjà arrivé là-bas, débrouille-toi en grand garçon. Donc, il y a d'abord cet aspect-là dont il faut tenir compte. Par rapport à ce qu'il vient de dire, nous sommes contents, mais nous pensons que ce qui se passe déjà chez nous ne va plus continuer. Puis, un autre aspect, quelque part, vous avez dit que ceux à qui ces bourses vont être octroyées devront rentrer au pays travailler pendant 5 ans avant qu'ils obtiennent leur diplôme. Bon, je crois que là, c'est encore un principe ou bien une condition à étudier convenablement. Parce que on voudrait bien que ces gens-là retournent, ça sera notre souci. Mais est-ce que du côté du pays, toutes les dispositions seront convenablement prises pour leur faciliter l'intégration facile? Parce que je connais moi personnellement des amis qui sont prêts pour rentrer travailler, mais parfois ils n'ont pas l'accès facile. Tantôt pour se trouver un logement facile en arrivant, tantôt pour être embauché avec beaucoup de facilité, tantôt pour des salaires. Et le ministre le sait bien, même au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, il y a trop de choses qui se passent là, il y a trop de combines qui se passent là, il y a trop de combats parfois pour les voir. Les gens doivent se battre au niveau de ces secrétariats. Alors, je ne sais pas, en annonçant cette thématique, en annonçant cette initiative, est-ce que ça va être matérialisé par rapport à ce que nous connaissons et nous savons déjà de notre pays, où on a vraiment pris toutes les dispositions en aval voilà. Et en aval.
En aval pour faciliter, oui. Merci beaucoup, Franck. Le ministre pourra nous dire les dispositions qui sont prises. Vous êtes inquiété plutôt sur ce qui est arrivé dans le passé, les gens qui sont retrouvés à l'extérieur sans que la bourse, le frais soit versé d'une manière régulière, ceux qui ont terminé, la facilitation de l'intégration, l'accès à l'emploi, le salaire. Voilà toutes ces questions que vous posez. Est-ce que tout cela pourra être élagué plus facilement pour permettre à ce que le projet puisse aller jusqu'au bout? Nous retournons ici au pays, à Kinshasa. Singi Pouloulou, vous êtes un opérateur dans le secteur de l'éducation. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci à Radio Capi et à notre cher auditeur.
On vous écoute.
Je félicite son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire pour son initiative. Mais qu'à cela ne tienne, je rappelle que le sujet est tellement important, mais en 1900, vers les années 70, le gouvernement zaïrois à l'époque avait envoyé plusieurs étudiants avec bourse pour la même idée. Mais l'évaluation a montré beaucoup d'incidents, car parmi les personnes envoyées, 90% étaient les fils, les filles, les neveux et nièces des Mobutistes, à l'époque s'il fallait les lire. Alors que ces enfants n'étudient souvent que parce que papa m'a dit d'étudier, et non par lui-même. En 1986, il y eut sommet en Addis Abeba après évaluation. Tous les pays africains ont fait la même chose. Mais ils ont trouvé que les gens qu'ils ont envoyés, il y avait beaucoup de problèmes, comme vous venez d'évoquer mon prédécesseur. Tous ces problèmes-là. Alors, ils se sont dit, que faire pour résoudre les problèmes du développement en Afrique? Ils se sont posé beaucoup de questions. Si aujourd'hui, pour les loisirs, nous importons les entraîneurs de léopard, avec 50 000 dollars qu'on payait un entraîneur qui était passé ici, les mois, loyer, transport garanti, Mais nous ne visons pas importer les scientifiques. Or, ceci est clair. Pour plus de précision, je vais vous rappeler. La ville de Kinshasa est en majorité dirigée par la mutualité qu'on appelle Banakin. C'est-à-dire ce sont des Kinois qui ont évolué à un certain moment en Europe. Bruxelles, Paris. Mais ils ont vu à Paris les rues, les avenues et autres sont propres. L'école primaire et secondaire gratuite. Les chômeurs sont payés. Mais est-ce qu'ils ont ramené ça ici? Majorité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, professeurs d'université et autres, mais étaient bénéficiaires des dites bourses. Alors, où sont les résultats? Où sont les résultats? Et les ministres, son excellence qui est là, il a une école d'élite dans la ville de Kinshasa. Il a créé une école internationale. Est-ce qu'il a envoyé ses professeurs pour aller étudier ailleurs pour revenir? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Soyons sérieux. C'est-à-dire quoi? Ce problème a été résolu par beaucoup de pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les sommets de 1986, il y a eu des recommandations. Parmi les recommandations figurent, il faut créer des centres de recherche en sciences et technologies. Il faut créer des laboratoires de recherche et adapter les résultats aux besoins de la cité. Il faut réformer le programme de l'enseignement national dont j'ai toujours parlé. J'ai toujours parlé de ça. Ce n'est pas en envoyant des gens à l'Europe pour étudier qu'ils vont revenir avec ça. Mais c'est plutôt en interne. Le ministre vient d'évoquer un sujet très important. Je le félicite. Il dit, il fait un constat que beaucoup de gens sont dans les sciences normales, mais dans les sciences appliquées pour développer le pays, les étudiants sont à 4 et 3 D. Il a raison. Après avoir terminé mon deuxième cycle à l'ISTA en tant qu'ingénieur génie civil en électrotechnique, je suis allé faire la physique à l'IPN. Mais nous étions qu'à 3 en physique d'électricité. J'ai fini à 3. Mais pourquoi cela? Mais ils le savent. Tous les gouvernements, tous ceux qui dirigent, l'attention, l'importance qu'ils ont donnée aux politiciens. Moins de personnes donnent l'importance aux sciences appliquées, aux technologies. Vous verrez, les gens qui ont l'argent, à Gombe, vous allez circuler dans tous les ménages de Gombe. Vous ne verrez pas 10 ménages qui ont des enfants ingénieurs. Mais non, ils ont des enfants en relation internationale, les enfants en sciences politiques et administratives. Mais moins d'envois des enfants en sciences appliquées, en technologie et consorts. Et vous verrez même, on véhicule un mauvais message que si l'enfant n'est pas intelligent, envoyez-le faire la technique. Mais vous voulez résoudre le pays comment?
Voilà, Sengi Pouloulou, on vous garde pour permettre au ministre de pouvoir réagir à ces deux interventions de fond. Et Christian, vous gardez la ligne, Sengi Pouloulou, gardez aussi la ligne, on va revenir à vous, le temps que le ministre puisse réagir par rapport à toutes ces deux propositions. Monsieur le ministre, vous avez suivi le deux compatriotes.
J'ai suivi, je le félicite à cause de la pertinence et la maturité de leurs interventions. Je vais répondre à leurs préoccupations. Le premier a parlé des mesures d'accompagnement parce qu'il y en a qui sont partis à l'étranger et qui étaient abandonnés à leur successeur. J'en suis bien conscient. C'est pour cela que quand j'ai présenté ce dossier au niveau du Conseil des ministres, j'ai prévu de pouvoir d'abord calculer l'impact financier de ce que ça va coûter au gouvernement pour qu'on puisse l'intégrer dans le budget de l'État l'année prochaine. Alors si c'est intégré dans le budget de l'État l'année prochaine, on doit absolument exécuter ça. Et je suis bien persuadé que même quand on ne sera pas là, le projet va être maintenu et que chaque année, quand c'est sur le budget de l'État, l'Assemblée veillera aussi, en tant qu'élu du peuple et le gouvernement, à ce que l'argent qui est destiné à des bourses études à l'étranger puisse être disponibilisé afin de pouvoir pérenniser ces projets. Alors, par rapport au fait que nous devons retenir le diplôme pendant 5 ans pour qu'ils travaillent, oui, c'est parce que la plupart, quand ils vont à l'étranger, après leur diplôme, alors qu'ils sont supportés par l'État, ils préfèrent aller travailler ailleurs. Voilà pourquoi on a dit, leurs diplômes seront envoyés au ministère de l'ESU au niveau de RDC. Et ils vont travailler pendant un temps avant qu'on leur donne ça. Et c'est vrai que nous devons aussi faciliter l'accueil de ces gens sur le plan de l'intégration professionnelle. D'abord, je rassure que ceux qui vont partir, d'après le projet, dès qu'ils vont faire leur doctorat au retour, ils vont aussi contribuer à enseigner dans les universités de la RDC pour former une relève sur place pour qu'après quelques années, on puisse recourir à l'étranger pour pouvoir former des professeurs. Donc, il y a beaucoup de place pour les professeurs. C'est garanti qu'une fois terminé, ils reviennent ici. Il faudrait qu'ils puissent automatiquement être rodés pour pouvoir encadrer aussi la jeunesse au niveau de cette université. Il a dit aussi qu'on se battrait pour me voir à mon secrétariat. Je pense que tout le monde sait très bien que je suis tellement ouvert au dialogue et que je reçois tout le monde qui vient à mon cabinet et qui voudrait bien me recevoir, bien me voir. Alors, si quelqu'un est compliqué pour me voir, je pense qu'il devra peut-être m'attendre quand je sors pour se plaindre, parce que je suis là pour servir la République, pour recevoir tout le monde. Je n'ai pas à pouvoir me faire important pour ne pas les recevoir et puis les écouter. Il y a M. Pouloulou qui a parlé aussi du fait politique qui a été connu vers les années 70, et que 90% des gens qui étaient envoyés, c'était les fils et neveux des ministres et autres hommes politiques. Je crois que si nous avons un peu de patriotisme, nous devons être objectifs de faire des choses. Je demanderai aux gens de vérifier sur les 200 étudiants que j'ai passés cette année dans les universités, je connais personne du tout. On a pris que les gens qui avaient réussi au test et ils sont là pour témoigner. Et aussi, comme j'ai dit, qu'on va surtout privilégier les scientifiques des universités, assistants, chefs de travaux. Je ne crois pas que la plupart des ministres aient des enfants qui sont chefs de travaux, qui sont des assistants. Je ne pense pas. Donc, je donne des garanties ici que les choses vont se faire dans la transparence. Et je demande à ce qu'on vérifie. Il y a un temps où, dans ces ministères, les gens payaient l'argent pour avoir des bourses pour aller au Maroc, aller en Algérie. Mais depuis que je suis arrivé, j'ai envoyé autant de personnes pour des bourses qui sont données par les pays étrangers. En Chine, le Maroc, Algérie, personne n'a payé même 100 dollars, même pas 100 dollars pour partir. Donc, la commission a travaillé, on a mis en place les critères, et tous ceux qui ont rempli les critères, ils sont partis. Et je pense que ce sera aussi pareil. Tant que je serai obligé de les suivre, eh bien, on va essayer de travailler dans toute transparence et dans toute objectivité. Et c'est même demandé est-ce que le ministre a son école, l'école cartésienne qui est internationale, est-ce qu'il a envoyé ses professeurs être formés ailleurs? Bien sûr que oui, mais cher Vanille, parce que comme dans cette école, il y a le programme de diplôme du pacte international, les professeurs devraient avoir des certificats de la formation qui est donnée par l'organisation qui chapeaute ces grandes écoles à travers le monde. Donc, ils sont formés, ils ont leur certificat par rapport à ça. Il a aussi dit que ce n'est pas plus important d'envoyer les gens à l'étranger, il faut réformer de l'intérieur. C'est vrai, mais avant d'y arriver, il faut qu'on élabore des professeurs à nombre suffisant. Quand nous aurons des professeurs à nombre suffisant, tout pourra commencer à se faire à l'interne. Et aussi, vous savez, nous sommes un peu sous-équipés. Et il faudrait que nos enfants soient formés dans des universités les plus équipées. Et entre-temps, il faudra aussi un projet. Ici, c'est le deuxième projet que je vais présenter au niveau du gouvernement. Il faut qu'un projet pour l'équipement à laboratoire de nos universités et en bibliothèque. Dans quelques mois, je vais faire basculer toutes les universités et supérieures dans les bibliothèques numériques pour permettre à ce qu'ils puissent être à la page. Et ce sont les préalables qui sont de mettre sur pied pour que, au finish, tout commence à se faire sur place ici au pays au lieu de continuer à recourir à l'extérieur. Mais dans tous les cas, on aura toujours besoin de savoir ce que font les autres pour l'importer chez nous. Voilà un peu la réponse.
Voilà, on va écouter Singi Pouloulou, si on va vous libérer tout à l'heure. Vous avez suivi l'explication du ministre. Cela veut dire l'intérêt est que le professeur qui doit enseigner, il faut qu'ils aient des compétences requises nécessaires. Et puis, pourriez-vous placer un mot pour la suite de votre intervention? Et puis, on va écouter Christian. Voilà, on l'a perdu. Hein. On est avec Christian ici à Kinshasa. Christian, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci de la parole accordée. De mon point de vue, vraiment, je salue cette initiative. Elle est combien louable dans la mesure où il faut servir le peuple pour éviter qu'il ne serve. Là, le plus grand problème est que, je crois que les autres les ont abordés, ça sera beaucoup plus le problème des critères sur l'éligibilité des boursiers. Dans la mesure où nous connaissons ça, c'est vraiment le mode de vie de ces gouvernements. Ils nous ont prouvé, noir sur blanc, et ce qui compte, c'est beaucoup plus le passe-droit hein, qui est la méritocratie. Et qui est la méritocratie et les cadets de leurs soucis. Et donc, le ministre vient de dire, il ne connaît pas un ministre qui a un frère assistant ou consort. Non, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas d'avoir un frère assistant ou cousin assistant connu. Mais le problème est qu'il y ait d'avoir cet esprit-là de passe-droit en soi. Donc, dès que vous êtes caractérisé par les passe-droits, que vous ayez un cousin ou un frère assistant ou non, vous allez toujours continuer à faciliter. Nous avons vu ça avec l'ENA ou les projets multijeunes professionnels. Il y a eu des candidats qui ont fait mais au finish qui sont aujourd'hui retenus. Ce sont tout simplement ceux-là qui ont des parapluies. Et donc, le problème des parapluies n'est pas un problème d'avoir un cousin, tout ça, non. Mais le problème des parapluies est, en fait, lié à la personne. D'où, il faut que nos autorités, mais aussi les candidats boursiers ou boursiables, aient une dose, n'est-ce pas, de conscience nationale pour éviter ou combattre ces vieux démons qui ne fait que indiquer pour emprunter vos mots, Pierrot, la magie, pour indiquer ces vieux démons qui ne fait qu'indiquer le développement et qui est un boulevard justement du surplace. Donc c'est un peu ça ce que moi je peux dire, mais sinon nous saluons cette initiative, nous interpellons tout simplement la conscience nationale pour que nous ayons vraiment des résultats méritoires.
Merci beaucoup Christian, il faut une dose de patriotisme, vous l'avez dit, des consciences nationales pour ne pas tomber dans ces trafics d'influence. Alors Singhi, vous pouvez conclure votre échange avant d'écouter d'autres auditeurs.
Oui, merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller dans le superflu.
C'est dommage qu'on a perdu Tingi Pouloulou. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro pour intervenir en direct. 09-96-09-97-06-4969, le deux numéros pour intervenir en direct dans ces magazines.
Comment se prévenir d'Ebola?
Éviter de toucher ou de manger un animal trouvé mort. Éviter tout contact avec le sang, les vomis, la sueur ou les effets d'une personne souffrante ou morte de la maladie à virus Ebola. Éviter de toucher le corps d'une personne morte de la maladie à virus Ebola. Enfin, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou de la cendre.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs des séjours se penche sur la décision du gouvernement d'envoyer à partir d'octobre prochain 500 étudiants boursiers dans les meilleures universités d'Amérique, d'Europe et d'Asie aux frais du Trésor public. L'annonce a été faite mercredi à Kinshasa par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Steve Mbikaï a affirmé au micro d'une conférence de presse que le programme vise à faire face au déficit de l'élite universitaire dans les domaines des sciences et technologies notamment. D'après lui, les bénéficiaires de ces bourses devront travailler pendant 5 ans pour l'État congolais avant que leur diplôme ne leur soit octroyé. Comment commentez-vous cette actualité? Vous êtes nombreux à commenter ces sujets, notamment sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et nous avons en ligne M. Steve Mbikaï, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour plus de précisions. Alors, M. le ministre, où est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà les modalités techniques et pratiques qui ont été déjà élaborées au niveau du gouvernement pour pouvoir accompagner la sélection, mais aussi la mobilisation des fonds pour la réussite de ces projets?
Oui, j'ai commencé par mettre en place une commission qui va s'occuper de ces sujets, mais aussi la commission est en train de calculer les frais financiers en faisant la moyenne de ce qu'on paye dans différentes universités pour les études doctorales de troisième cycle et premier cycle, en vue de dégager les frais financiers pour intégrer ça dans le budget de 2019. Et moi-même, dans un mois, je pourrais commencer des voyages à l'étranger pour aller visiter, parce que souvent on met nos enfants dans les universités des secondes zones dans ces pays-là. Je dois partir moi-même visiter les meilleures universités en vue de négocier. J'ai demandé les pleins pouvoirs au ministre des Affaires étrangères pour que je puisse avoir le pouvoir de négocier avec les ambassades étrangères et les pays étrangers par rapport à ça. Et c'est des décors qui sont en train de planter au niveau du ministère par rapport à ça, parce que la première vague doit en principe y aller pour l'année académique qui va débuter, comme vous l'avez dit, en octobre prochain. Donc on n'a pas assez de temps. On est en train de faire des efforts pour que les choses avancent rapidement et qu'on arrive déjà à commencer à pouvoir recruter. Mais je demande à tous ceux qui ont des sujets de recherche pour études doctorales de pouvoir y penser déjà. Avec les priorités données, comme je l'ai dit, il y a la médecine, il y a les lignes, il y a donc les télécommunications, il y a mécanique, il y a physique, il y a chimie, mais aussi même ces deux autres disciplines des sciences sociales qui sont intéressées à la chose auront aussi un quota dans ces bourses-là. Donc, bref, au niveau du ministère, on est en train de planter des décors pour pouvoir rendre effectif ces projets.
Nous allons écouter Madame Joséphine qui nous appelle de Boston aux États-Unis d'Amérique. Merci Madame d'être avec nous. Bonjour.
Ah, bonjour Radio Capilla. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je veux dire ceci. Pierrot, on a toujours parlé sur cette radio. Beaucoup de gens ont parlé. Je crois qu'un jour, le gouvernement va écouter la population. Vous savez, je ne sais pas pourquoi le gouvernement fait passer le temps, son temps pour rien. Pourquoi faire des investissements de prestige? Je me demande pourquoi. Vous allez voir, le gouvernement est calme. Un jour, un ministre sort avec quelque chose, vraiment, même un enfant. Quand l'enfant analyse tout ce que le ministre a dit, ce sont des dépenses de prestige. Avant-hier, j'ai aimé l'émission d'avant-hier. Le monsieur qui était là, il est coach de business ou bien le coach qui montre aux gens comment investir. Le ministre peut investir dans ces gens-là. Tout le monde qui avait appelé, les gens à Mbujima et à Kananga, partout, ils avaient besoin de quelque chose. Ce sont des gens, des étudiants qui ont terminé, ils n'ont rien. Si je dois prendre le ministre au mot, il va prendre les enfants intelligents. Vous savez, hein, le Congo est à genoux. Un enfant intelligent qui a vécu, qui est intelligent au Congo, on l'envoie par exemple ici aux États-Unis, il viendra ici, il va rester. Parce que la vie qu'il a vécue au Congo, c'était une prison à ciel ouvert. Quand il va venir ici, par exemple, il va rester ici. Si je ne le prends pas au mot, je parle comme les autres. S'ils veulent envoyer leurs enfants, mais chaque jour, ils envoient leurs enfants partout ailleurs. Et leurs enfants propres restent là où ils partent. Et a fortiori, les enfants des autres. Je vais demander au ministre, en tant que ministre, on a parlé dernièrement ici qu'on va fermer l'entreprise qui produise, les entreprises locales qui produisent les plastiques, tout ce qu'il y a plastique, sachet ou quoi là. Qu'on crée une entreprise, au lieu de fermer une entreprise de plastique, qu'on crée une entreprise qui va commencer à récupérer les plastiques là, parce que ça va créer l'emploi. Qu'on crée une autre entreprise qui va récupérer le plastique pour faire autre chose, par exemple les tôles, par exemple les tables en plastique, par exemple les fenêtres en plastique, qu'on laisse les enfants tranquilles. Vous savez ce qui arrive aux Congolais. Un Congolais qui est à l'Équateur, qui a le bois là-bas, il y a le bois. On prend le bois, on exporte. Dans les maisons de villageois, il n'y a pas de chaises. C'est parce qu'on a investi localement aux enfants intelligents là. Qu'on prend un enfant intelligent de l'Équateur, on l'envoie à l'Équateur, on lui donne le montant d'investissement pour qu'il crée quelque chose localement. localement. C'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont fait chez eux localement. Ils n'ont pas envoyé les enfants au Congo. Non. Le Congo n'est pas à ce niveau-là de prendre toute la matière grise, les enfants intelligents. Non, vous êtes en train d'exporter les intelligences. Ou bien vous ne voulez pas que les enfants intelligents vous soient des concurrents, là, localement. Que les ministres pensent encore et répondent. Nous ne voulons pas des investissements de prestige, qu'on laisse les enfants tranquilles, les enfants congolais intelligents. Tout le monde est intelligent d'ailleurs, doivent raisonner en termes de Congo. Regarde le parc est là où on tue les gens. Il y a des enfants intelligents là-bas, à Goma et partout au sud. Pourquoi on n'investit pas localement là-bas? Ça, c'est mon petit rapport. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Joséphine. Vous estimez que dépenser l'argent pour envoyer de Congolais à l'étranger, nombreux, ne vont pas revenir parce qu'ils vont pouvoir croire qu'il y a un changement d'environnement. Pour vous, ce qui serait mieux à faire, c'est de prendre cet argent, d'investir dans les intelligences localement. Et comme le ministre l'a dit d'ailleurs, qu'il faudrait des bibliothèques, qu'il faudrait des laboratoires, créer des laboratoires, permettre à ces enfants d'être formés localement et qu'ils produisent localement, ça peut être plus bien plutôt que les envoyer à l'étranger. Merci beaucoup, madame. À Kananga, c'est Jean Crispin qui est avec nous. Bonjour, Jean Crispin.
Bonjour, Gilles. Bonjour, Gilles. Merci beaucoup. Et moi, c'est Jean Crispin Kumba, expert en santé publique, que j'appelle depuis Kananga. Personnellement, je salue ces meilleurs projets et programmes élaborés dans le chef du gouvernement de notre pays. Mais ma souffrance et ma préoccupation est que le dirigeant puisse réaliser ces projets dans toute sa partialité, c'est-à-dire que les 500 étudiants soient sélectionnés des différentes couches entités de notre pays, donc villes et villages, et non donner plus accès aux enfants des ministres, des députés et aussi des grands patrons, tout en oubliant ceux des pauvres parents. C'est-à-dire, coup de chapeau à notre ministre de la Santé, ministre de tutelle, que j'apprécie, je soutiens beaucoup plus. Lors de son passage ici à Kananga, nous l'avons pris l'entretien avec lui. On a fait un petit débat sur cette question. Alors, je suis sûr qu'il a répondu à notre préoccupation de la fois passée, mais que toutes les entités soient représentées et non prendre les enfants des députés, des ministres et consorts. Même ici au village, nous avons des enfants intelligents qui ont besoin de ce soutien. Que notre chef du gouvernement et le ministre de tutelle puissent aussi penser à différentes ou à différentes couches de notre pays. Merci beaucoup. C'est ça.
Merci. Merci beaucoup, Jean Crispin. D'ailleurs, le ministre expliquait tout à l'heure la différence par rapport à la bourse d'excellence et de solidarité nationale qui a été octroyée aux ceux qui ont eu le diplôme d'État. Il l'a dit, 200 élèves qui sont sortis meilleurs dans les tests, qui sont casés dans les universités où ils étudient gratuitement, mais pour ces différentes bourses qui sont concernées par les gens qui ont des sujets de recherche, et aussi les critères seront bien est établi, c'est que vous souhaitez d'ailleurs que ça ne soit pas seulement à Kinshasa ou les proches, que ça soit fait à travers le pays, y compris aussi dans les milieux les plus reculés, parce qu'il y a des assistants, des chefs des travaux en province qui peuvent aussi bénéficier de ces bourses. Merci beaucoup, Jean-Crispin Pichou. Vous êtes à Kulungongo. Bonjour, Pichou.
Bonjour.
Pourriez-vous arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît, Pichou? Comme ça, on peut communiquer sans beaucoup de difficultés. On vous écoute.
Ok. Bon, en fait, je salue d'abord l'initiative prise par le gouvernement d'envoyer les enfants intelligents, comme les ministres évoqués. Mais je retiens la bonne parole de Mme Joséphine qui a appelé tout à l'heure là, des États-Unis, je crois, qui a évoqué qu'il y a des Congolais qu'on a envoyés aux États-Unis qui ont trouvé mieux. Et aujourd'hui, il y a un problème, même si vous allez dans les ambassades, il y a des gens qui ne veulent même plus retourner au Congo. C'est très bien. Mais je voudrais aussi une fois interpeller le gouvernement concernant surtout les promesses qui ne tiennent pas compte par après. Ça dit quoi? Ils peuvent bien promettre, mais aujourd'hui, nous avons d'abord un problème de budget. Le budget, je ne sais pas si partant de cette promesse, dans les budgets, quand cela a été présenté à l'Assemblée, on avait inscrit dedans cette promesse ou soit cette initiative. Partant du fait que aujourd'hui le ministre s'est prononcé pour promettre à la population, soit au Congo, congolais, que nous allons envoyer des enfants, plus de 500 par année. Est-ce que cela est inscrit dans le budget? Parce que le budget semblerait-il que c'est un budget maigre. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des promesses et qu'après qu'on ne tienne pas compte qu'on a promis des gens. Parce que nous avons vu ici, on a vu ça dans les cinq chantiers, on a vu ça dans la révolution de la modernité, il y a des promesses, des affiches partout que nous aurons des métros, nous aurons des histoires ici, mais aujourd'hui, nous n'avons des fiascos. Alors nous demandons au gouvernement, comme l'a dit Madame Joséphine, qu'on prenne les initiatives de créer des emplois. Ici au Congo, on peut créer. Il y a l'élite au Congo. Il y a des gens intelligents au Congo. Il y a des enfants qui sont génies. On a vu à Lubumbashi, il y a quelqu'un qui a fait décoller un hélicoptère. On a vu par-ci par-là, il y a des robots qu'on voit comme roulage là-bas qui fait ça. C'est des main-d'œuvre congolais. Donc nous ne voulons pas des promesses ou réaliser deviendra un problème pour nous. Donc c'est ça ma contribution dans cette émission. Merci vraiment Pierrot pour cette initiative.
Merci beaucoup Pichu. Nous retournons la parole au ministre Steve Mbikayi. Vous avez suivi les uns et les autres. Il salue l'initiative, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Hein. Par exemple, cette question de la budgétisation. Est-ce que le budget 2018 se prévoyait-il déjà qu'on puisse accorder ces bourses hein, pour que ça ne puisse pas s'arrêter? Il faut quand même commencer un projet qui doit aller jusqu'au bout. Voilà autant d'inquiétudes, monsieur le ministre.
Ok, merci. Je suis avec attention. D'abord, madame Joséphine Bétajouli. Ce que je vais demander, c'est qu'on puisse parler des coqs à l'âne. Je suis le ministre de l'enseignement universitaire. Je ne gère pas tous les secteurs de la vie nationale. Je donne les projets qui concernent mon ministère. La création des entreprises pour essayer de chercher ainsi de suite. Ça ne veut... Qu'est-ce que ça vient faire ici? Ici, c'est autre chose dont je parle. Donc, je crois qu'il faudrait donner ces propositions dans le ministère de l'Industrie. C'est un moyen d'entreprise, par exemple. Alors, il ne faut pas être pessimiste, dire, voilà, pourquoi on voit des gens à l'étranger, il y a des enfants intelligents localement, la Chine n'a pas fait ça. Madame, la Chine était aussi pauvre que nous. La Chine a eu à importer la science de l'étranger. Le Japon et la Chine ont envoyé beaucoup leurs fils à l'étranger, en Occident surtout, pour pouvoir importer la science, la technologie chez eux. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement autosuffisants. Et nous aussi, je pense que si nous le faisons, ça va y aller. Nous avons une nouvelle science aujourd'hui qu'on appelle la mécatronique. Il n'y a aucun professeur de mécatronique ici au Congo. Eh bien, pour l'avoir, il faut absolument envoyer les gens dans les universités où cette option est organisée. Au finish, quand nous aurons environ 20 000 professeurs, parce qu'on n'aura plus besoin d'envoyer les gens à l'étranger, quand nous aurons des laboratoires bien équipés, avec des bibliothèques bien équipées chez nous, après un temps, on va arrêter avec le système d'envoi des enfants à l'étranger. Mais aujourd'hui, il y a carence, et je pense que c'est vraiment un projet salutaire que le gouvernement a adopté pour pouvoir remonter le niveau de nos enfants. Beaucoup déplorent le fait qu'on verra demain que son enfant de ministre sera envoyé. Je crois que je demande à tout le monde d'observer ce qui va se faire. Dans mon ministère, il n'y a pas de favoritisme. Je mets quiconque au défi de me dire que depuis que je suis là, il a donné ne fût-ce qu'un dollar pour que son enfant aille en Chine, qu'il aille en Tunisie ou alors au Maroc, parce qu'on en a envoyé beaucoup. Et s'il y a quelqu'un de mon ministère qui demanderait de l'argent à quelqu'un, on le dénonce, il sera sanctionné tout de suite. J'ai eu aussi la question qui a été posée par M. Tutu concernant le budget 2018. Ce projet, on va le commencer en 2018, mais sera opérationnel en 2019. C'est comme ça qu'on est en train de faire les calculs de l'impact financier que ça va demander pour qu'on puisse l'intégrer dans le budget qu'on va, voter pour 2019. Voilà pourquoi j'ai préféré que ce soit une décision qui est adoptée par le Conseil des ministres, dans lequel siège notamment le ministre des Budgets et des Finances, pour faciliter que le montant qui sera dégagé soit intégré dans le budget 2019 afin de pouvoir faciliter son décaissement pour que le projet puisse prendre corps à partir de l'année prochaine. Mmh. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées par les auditeurs.
Merci beaucoup. On va écouter le deux derniers et conclure cet échange. Pichu était avec nous à Kulungongo, Alain est en Bandaka et Gervais à Kalemie. On va terminer avec les derniers auditeurs et conclure ce débat. Alain, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à son excellence, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Bon, moi personnellement, je salue l'initiative, bien que je suis un peu perplexe par rapport à la capacité des États à supporter sur le plan financier le projet. J'estime de mon point de vue qu'il y a quand même un problème. On aurait plutôt pensé à créer un fonds de promotion de l'enseignement. Et partant de ces fonds, on pouvait prendre ces gens en initiative. Parce que, comme vous le savez, l'État congolais est déjà assuré sur le plan financier. Il n'a pas la capacité de financer même un petit projet essentiel. Je ne vois pas comment on va financer le déplacement des 500 étudiants. Si on peut faire un calcul grossier, 500 étudiants par an, si on prend par exemple 10 000 dollars par étudiant, ça nous fait déjà dans les 5 millions de dollars. Je ne sais pas si l'État sera en mesure de pérenniser son propre projet. J'estime de mon point de vue que ce sont des initiatives à encourager, mais qui demandent à ce que nous approfondissions l'étude pour que nous nous rassurions qu'effectivement, ça ne sera pas un projet, une promesse fallacieuse qui ne va pas aboutir. Voilà pourquoi je propose à son excellence, s'il y a possibilité, d'envisager plutôt de mettre sur pied un fonds, ou si ces fonds existent, de compter plus sur le fonds que d'être financé ou d'être émargé dans le budget. Parce qu'on sait qu'il y aura certainement de problèmes et de justifications. Supposons que nous envoyons nos enfants à l'étranger et par la suite nous sommes en incapacité de financer leurs études. C'est-à-dire ils seront bloqués. C'est la même situation que nous vivons avec nos diplomates. C'est vrai que nos diplomates aussi étaient appelés à aller à l'étranger, mais pour la plupart, ne sont pas pris en compte dans le budget, ou sinon, le taux d'exécution est quasi nul. Donc, j'estime de mon point de vue que tout Congolais sensé qui connaît la valeur de la science ne peut que soutenir ce genre d'initiative. Et comme le ministre l'a dit, la Corée, la Chine, c'est-à-dire le pays du dragon, qui aujourd'hui sont émergents, c'est tout simplement parce qu'ils ont eu à investir dans le domaine de l'éducation. Je prends l'exemple de Corée du Sud, a mis l'accent sur la mathématique et aujourd'hui l'informatique a une place de choix. Et si aujourd'hui le groupe tel que Samsung existe et tous ces groupes-là, c'est tout simplement parce qu'il y a eu transfert de connaissances et il y a eu importation de connaissances, et ce qui a fait qu'aujourd'hui on a forgé leur économie sur la recherche et sur l'invention. C'est ce qui constitue aujourd'hui leur force.
Merci beaucoup Alain. Vous proposez au ministre, si c'était possible, la création d'un fonds spécial, hein, un fonds de promotion de l'éducation qui pourra servir de financement à ces projets pour éviter que, avec tout ce qu'il y a comme fluctuation au niveau du budget de l'État, les projets ne puissent souffrir de l'exécution et surtout de la pérennisation. Merci beaucoup Alain. Gervais, vous êtes à Calémie, on va terminer avec vous, revenir à notre invité pour conclure cet échange. Bonjour Gervais.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à son excellence Monsieur le Ministre, bonjour à tous les gens d'État qui sont en train de suivre en ce moment.
Bon, on vous écoute Gervais.
Oui, donc, génial et saluable cette initiative. La question préoccupation pour nous majeure, c'est au niveau de sélection, parce que nous savons bel et bien que la RDC est un pays potentiellement riche, mais les conditions là de restauration ne pourront jamais peut-être coûter cher. Mais c'est du point de vue un peu sélection. Nous aimerions que cette sélection soit d'une manière un peu globale, disons, qui englobera tous les pays, donc aussi le territoire national, et aussi chercher, tant soit fait, les personnes qui seront un peu intégrées au concours, donc ceux-là qui seront donc permanentes par rapport au concours et à la correction. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons beaucoup plus le système des pots de vin, donc la correction a pris un peu. Et aussi parfois le ridicule tue et le favoritisme aussi et le clientélisme règne beaucoup plus ici chez nous en République démocratique du Congo. la méritocratie que nous aimerions un peu voir dans ce secteur, et aussi la prise de conscience, comme l'a dit mon précédent intervenant qui a dit la prise de conscience nationale. C'est aussi une grande question quant à ce, parce qu'aujourd'hui, si les recours, soit les recommandations viennent de part et d'autre, mais que dire de les autres étudiants qui n'auront pas donc les différents appuis pour être sélectionnés, et cela pourrait tant saper l'image et aussi la représentation. Nous avions suivi récemment les étudiants sénégalais qui étaient partis pour la Suède. Ils ont été meilleurs de l'autre côté, donc c'est par leur mérite qu'ils ont eu à prouver leurs compétences. Mais aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui n'est pas vraiment à la hauteur de sa tâche, on pourrait toutefois dire que non, la RDC est en train vraiment de produire des mauvais étudiants qui ne remplissent pas les conditions.
Merci beaucoup, Gervais. Vous avez interpellé les uns et les autres sur la question de la conscience nationale, le patriotisme aussi, hein, l'intégrité, le choix, pas des favoritismes, mais bon, vous saluez l'idée comme l'ensemble de nos auditeurs. Nous revenons à vous, Monsieur Steve Mbikai, pour conclure cet échange en deux minutes. On a suivi les uns et les autres. On espère, bien sûr, comme vous l'avez dit, que les gens ne soient pas pessimistes, qu'on espère, et que surtout sur les plans financiers, que les moyens pourront permettre à ce que les projets soit mené jusqu'au bout. Votre mot de conclusion.
Oui, je suis content parce que tout le monde qui a parlé a soutenu cette idée et ce projet. Ce qui vient de venir en focus des positions que j'ai prendre en compte dans le processus d'octroi de ces bourses. Il y a un qui s'est inquiété par rapport aux moyens. Il a dit 7 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est peu. Quand il faut importer le savoir-faire, et le savoir scientifique. Je prends un exemple. Nous avons beaucoup de grumes. On exporte à l'état brut et on ne gagne rien du tout. Mais si nous importons la connaissance de ceux qui fabriquent les dames de qualité au pays et que nous avons des techniciens capables de le faire au pays, nous allons créer des emplois sur place et nous allons générer des devises en exportant les bois bien faits. Cela veut dire, si nous avons l'argent pour importer les aiguilles, importer les poissons de mer et autres, mais nous devons avoir l'argent aussi pour importer le savoir et le savoir-faire qui va nous développer. Sinon, nous serons toujours dépendants, nous serons toujours un pays des consommateurs. Il faut qu'on finisse, on devient un pays des gens qui inventent quelque chose et les gens qui peuvent tout produire sur place en ayant la capacité nécessaire qu'on va acquérir à travers nos enfants qui pourront aller ailleurs. Moi, je suis ministre de l'ESU, je monte le projet en permis de l'ESU et le gouvernement l'a soutenu et je suis sûr que le ministère des Budgets et des Finances vont devoir s'y penser aussi pour que ce projet commence, ne s'arrête pas en bon chemin. Et puis, je veux dire, je suis là pour faciliter la tâche à tous les étudiants congolais, à tous les parents, parce que nous sommes là pour servir et non pour se servir.
Merci beaucoup, Monsieur Steve Mbikai, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à l'ensemble des auditeurs. Vous avez été nombreux, mais le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Jean-Claude Nsiala qui a assuré la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambaye. J.R. Lungembo était à la coordination. Pierrot et la Meiji, j'ai eu le réel plaisir de vous le présenter. Il nous reste à vous souhaiter d'agréables moments et surtout un bon week-end en compagnie de Radio Capi. On se retrouve le lundi prochain pour de nouvelles aventures avec Parole aux Auditeurs. Merci et au revoir.